Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Toujours sur Mon Paris FM, toujours dans le cadre des rencontres professionnelles du réseau Information Jeunesse d'Île-de-France. Là, on est avec deux personnes. On va commencer par Déborah. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Déborah ?
Et donc, je suis Déborah et je suis chargée d'animation territoriale sur le dispositif de la boussole des jeunes dans le Val-de-Marne, dans le 94.
Dans le 94, Déborah, elle n'est pas toute seule. Elle est avec Camille. Camille, comment ça va ?
Mais ça va, ça va très bien.
Et Camille, vous, est-ce que vous pouvez vous présenter également ?
Eh bien, du coup, moi, je fais pareil que Déborah. Je suis la coordinatrice du projet La Boussole des Jeunes, mais sur le département du Val d'Oise.
En quoi consistent vos métiers ? Qui commence ? Déborah, Camille ?
Je me lance. Alors, La Boussole des Jeunes, c'est un dispositif pour les jeunes, en premier lieu. Pour les 15-30 ans, ça a pour but de recenser les aides, les accompagnements gratuits à proximité de chez le jeune. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de La Boussole des Jeunes. Et il a un second objectif, celui du coup d'être utile pour les pros de chaque département, en référençant du coup tous les acteurs, les aides, les associations ou structures jeunesse du département sur plusieurs thématiques, l'emploi, la formation, la santé, le logement, l'engagement, la mobilité, la vie quotidienne, sport, loisirs et culture.
C'est quoi qu'on appelle un jeune, Déborah, justement ?
Oh, un jeune, c'est une question très difficile. On a abordé d'ailleurs le sujet ce matin lors d'un débat et on n'a pas trouvé de réponse. Sens large, pour nous, en tout cas, notre dispositif, ça touche les jeunes de 15 à 30 ans. Donc on est vraiment sur un panel assez large.
Et vous, qu'est-ce que vous mettez en place exactement dans vos structures pour ces jeunes-là, de 15 à 30 ans ?
Alors, du coup, nous, dans notre métier, on n'a pas de structure à proprement parler. C'est vraiment un outil numérique qui permet de recenser les offres de services. Et donc, le but, c'est de trouver des structures qui accompagnent les jeunes et de leur trouver un moyen de répondre à leurs interrogations sur les différentes thématiques qu'on a abordées.
Et la problématique qui revient le plus souvent chez les jeunes, c'est quoi ? On vient vous voir avec quelle problématique le plus souvent ?
Déborah et moi, on développe toutes les deux nos outils sur la thématique de l'emploi et la formation.
Donc, principalement.
C'est ça. Donc, l'emploi, c'est quelles aides, quel accompagnement je peux avoir pour m'aider à trouver un emploi. Quel que soit CDD, CDI, intérim, je cherche un emploi, je veux travailler. Quelles aides je peux avoir ? Et pour la formation, c'est à peu près pareil, mais pour la formation, quelles aides, quels services, quel accompagnement il existe, gratuit, pour moi qui ai entre 15 et 30 ans, pour m'aider à trouver une formation.
Ok. Et vous faites ça depuis longtemps ?
Non, depuis cette année. Toutes les deux depuis cette année. Mais du coup, on a notre consoeur juste à côté de nous qui n'a pas la chance d'avoir le micro, qui du coup est du 78. Et elle, du coup, elle est là depuis quelques mois de plus que nous. Quand est-ce que s'est lancée ta boussole, Aurélie ?
L'année dernière. L'année dernière, en septembre, je suis arrivée, j'ai pris poste et on a inauguré en décembre de l'année dernière.
On va vous laisser vous présenter, Aurélie, maintenant que vous avez le micro. Vous n'allez pas fuir. Je vous écoute.
Moi, c'est Aurélie, comme elles l'ont dit. Je développe le même outil sur les Yvelines. Et nous, on a commencé par les bassins de Mureaux et on va inaugurer sur un nouveau bassin, sur Boucle de Seine. Pareil pour les 15-30 ans, sur les doubles thématiques, emploi et formation, bien distinctement.
Quel est votre diagnostic de la jeunesse aujourd'hui ?
On a besoin d'aller vers eux. Ils ne fréquentent plus les structures, ils ne connaissent pas les structures. La crise de Covid a joué aussi sur le fait qu'ils ne se déplacent plus, qu'ils ont peur, qu'ils ne connaissent pas les nouvelles horaires, etc. Donc, il y a eu ce constat que les jeunes ne se déplacent plus et qu'il faut aller vers eux. L'outil de la boussole des jeunes répond à ce constat-là. C'est on va vers eux, c'est un outil numérique disponible 7 jours sur 7, 6 jours sur 24 heures sur 24. En laissant leurs coordonnées, ils vont avoir la certitude d'avoir un professionnel qui va répondre à eux en moins de 7 jours. Donc ils vont avoir ce contact-là, d'avoir quelqu'un par SMS, en téléphone, par mail, pour avoir ce premier lien et avoir un lien concret, réel, avec un professionnel qui peut les accompagner.
Une dernière question, c'est la plus difficile depuis ce matin. Tout le monde me dit qu'elle est compliquée. Qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour les jeunes qui devraient être faits ? Ou qu'est-ce qui est fait mais qui n'est pas assez approfondi ?
Simplifier les offres qui sont mises à disposition des jeunes, je pense.
C'est un des buts de la boussole aussi, c'est d'éclaircir un peu sur chaque département. En référençant les aides qui existent, ça nous permet à nous, coordinatrices, avec nos différents partenaires, associations, structures jeunesse, de un peu pointer là où il y a des trous dans la raquette, mais aussi là où parfois il y a beaucoup d'offres qui se ressemblent. Est-ce qu'elles se ressemblent vraiment? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est le même public? Est-ce qu'elles sont situées dans les mêmes quartiers? Est-ce qu'elles font vraiment la même chose? Souvent, c'est non, parce que du coup, les villes sont grandes souvent, et du coup, il y a plein de choses à faire. Et du coup, l'idée, c'est de dire, tout ça, sinon on se pose la question, très certainement, il y a des jeunes qui doivent se la poser aussi. Donc comment est-ce que tous ensemble, on peut rendre ça plus clair et plus lisible pour le jeune?
Ok, ouais. C'est clair pour moi en tout cas. Merci beaucoup, mesdames. Et peut-être un mot à rajouter.
Ouais, j'allais dire merci à vous.
Je voudrais rajouter que ce qui est fait aujourd'hui pendant le séminaire, c'est que les professionnels de l'IJ, ils peuvent recroiser les liens et travailler en réseautage. Et ce qui manque aussi, et c'est ce qu'on apporte avec la boussole, c'est que du coup, les partenaires peuvent travailler ensemble, connaissent leur mission chacun et chacune, et peuvent du coup mieux accompagner les jeunes en fonction de ce qu'eux peuvent et ne peuvent pas faire. Parce que chacun ont leur propre mission, pas les mêmes définitions de l'âge au niveau de jeunesse, leur façon d'accompagner les jeunes au niveau des solutions d'offres de rémunération par la mission locale, Pôle emploi, etc. vont pas faire les mêmes choses, les associations, etc. vont pas avoir les mêmes horaires, la même accessibilité, la même simplification de langage pour parler à tel ou tel jeune. Un jeune va peut-être être rebuté par telle ou telle structure et du coup, notre structure peut lui l'accompagner. Donc c'est travail en réseau qu'ils commencent et qu'ils font, la boussole le fait aussi pour les structures travaillent mieux entre elles, pour toujours le bénéfice du jeune. On pense toujours au jeune.
Le plus important, c'est le jeune.
Ouais.
Le message est clair, en tout cas, tout est bien passé. Merci beaucoup à vous trois.
Merci
et
à vous.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça se passera bien.
Merci
beaucoup. Toujours sur Mon Paris FM, toujours dans le cadre des rencontres professionnelles du réseau Information Jeunesse d'Île-de-France. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, bonjour, je suis Raphaël Delaunay, je suis directrice du CIDJ, Centre Information Documentation Jeunesse.
Comment ça va, Raphaël? Et comment se passe la journée déjà?
La journée se passe super bien.
Et pourquoi avoir décidé de faire cette rencontre?
Alors, le réseau Information Jeunesse, c'est une richesse énorme pour les jeunes. C'est un service gratuit qui est offert à tous de façon indépendante pour guider les jeunes jusqu'à leur autonomie. On a des professionnels qui travaillent en Île-de-France pour ce service. Il y en a 500. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir les réunir régulièrement et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette occasion. C'est déjà la meilleure façon d'agir ensemble, de se connaître. Donc, c'est un des objectifs de la journée. Et puis aussi, évidemment, d'échanger des pratiques, de déconstruire éventuellement des idées qu'on peut avoir pour pouvoir s'enrichir les uns les autres et apporter toujours un meilleur service auprès des jeunes.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le CIDJ?
Bien sûr. Alors, CIDJ, c'est une des premières structures Information Jeunesse qui a été créée à la fin des années 60, sur une impulsion des politiques de l'État. Aujourd'hui, on va dire qu'elle a deux missions. Une première qui est d'animer le réseau Information Jeunesse en Île-de-France avec trois structures départementales, dans le 77, 78 et le 95. Et puis une deuxième mission qui est de produire des outils au niveau national, aussi bien pour le grand public avec le site d'information CIDJ.com que pour les professionnels aussi. Et puis on a tout un volet aussi pour favoriser la mobilité à l'international avec une équipe qui œuvre sur le sujet et anime le réseau sur tout le territoire.
Quelle est la définition d'un jeune pour Raphaël?
C'est une très bonne question. C'est une bonne question en l'occurrence parce qu'au début de la création des services information jeunesse, on considérait un jeune quelqu'un qui avait entre 15 et 25 ans. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, cette définition est un peu différente. On parle de 14 à 30 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, les problématiques des jeunes, elles ont évolué. Et elles sont différentes aujourd'hui. Elles sont différentes aussi en fonction des territoires. Ne serait-ce qu'en Île-de-France, les problématiques ne vont peut-être pas être les mêmes à Paris qu'à Melun, que dans plein d'autres villes. Et tout ce qui fait la richesse et aussi la différence sur nos territoires.
Vous parliez de problématiques qui évoluent. Quelles problématiques vous rencontrez le plus souvent, vous?
Alors, et je vais parler pour les informateurs jeunesse, donc forcément ils ont beaucoup plus de choses à dire, mais ce qu'on peut observer, c'est que même si la question de l'orientation est en général une première clé d'entrée pour amorcer une discussion avec les jeunes et ensuite aller interroger toutes les problématiques et toutes les questions qu'ils peuvent se poser, malheureusement, des thématiques aujourd'hui qui ressortent sont celles de l'accès aux droits, Et c'est malheureusement une tendance qu'on observe de plus en plus dans les interactions avec les jeunes.
En tant que directrice du CIDJ, quel est votre diagnostic de la jeunesse ?
C'est une très bonne question. Il est difficile à établir parce qu'on, encore une fois, comme je le disais, on va parler de l'Île-de-France, mais dans chacune des régions, les problématiques vont être différentes. Je vais prendre l'Occitanie, c'est un territoire qui est extrêmement grand. Il y a des montagnes, il y a beaucoup de zones blanches. La problématique pour aller chercher les jeunes, pour aller les toucher, est très différente de celle qu'on va avoir en Île-de-France. En Île-de-France, on va concentrer des inégalités qui sont extrêmement fortes, avec aussi quelques zones rurales, quelques zones blanches, ce qui rend en fait le diagnostic assez complexe dans la mesure où les champs de problématiques sont extrêmement larges.
Justement, qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui au niveau des jeunes qui pourrait être fait, ou qu'est-ce qui est fait mais qui n'est pas assez approfondi, pardon, selon vous ?
Alors, pour moi, un énorme défi, c'est d'arriver à peut-être apporter de la simplification dans l'ensemble des dispositifs qui existent. Il y a énormément de choses. En fait, c'est comme si d'un côté, on avait beaucoup de jeunes, de l'autre, beaucoup de propositions, beaucoup de dispositifs qui peuvent exister, et c'est arriver à faire sans rencontrer les deux.
Okay. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions.
Bah, merci à vous.
J'espère qu'il y aura la même rencontre l'année prochaine et que celle-ci se finira comme elle a commencé, c'est-à-dire très très bien. En tout cas, nous, on se sent très bien depuis ce matin. Donc cool. Voilà.
Ça sera festif ce soir et on espère vous avoir avec nous sur le dance floor.
On sera là.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Toujours sur Mon Paris FM, dans le cadre des rencontres professionnelles du réseau Information Jeunesse d'Île-de-France. On est sur le début de soirée, on est avec Younes. Younes, comment ça va ?
Ça va très bien, merci.
Est-ce que tu peux te présenter ou vous présenter ? Tu préfères le tutoiement ?
Tu peux me tutoyer.
Tutoiement. Est-ce que tu peux te présenter, Younes ?
Je m'appelle Younes, j'habite à Poissy et je suis un informateur jeunesse de la ville.
Tu fais ça depuis combien de temps ?
Depuis 2018.
C'est quoi le rôle d'un informateur jeunesse ?
L'informateur jeunesse est là pour accueillir, informer, orienter les jeunes. On va dire de 11 à 30 ans dans différents domaines, ça peut être la santé, l'emploi, la formation, des aides financières quelconques pour le permis de conduire, le BAFA, la mobilité internationale, création d'entreprise, les questions de santé, de logement. Donc on est, c'est très large en apport d'information. On est assez généraliste.
Accueillir, écouter, informer les jeunes, c'est quoi un jeune ?
Un jeune, c'est quelqu'un qui est entre 11 et 30 ans, qui vient passer le pas de la porte de notre structure et demander de l'aide. Et c'est quelqu'un qui, c'est le jeune, quand il vient, forcément, il est un peu perdu dans tout ce système d'information, etc. Donc on est là vraiment pour, on va dire, débroussailler le terrain et lui montrer le chemin et lui dire voilà où tu peux trouver telle ou telle information.
En termes de problématiques, c'est lesquelles qui se présentent le plus à vous ?
Après, en termes de problématiques, il y en a plusieurs. Tu peux avoir le problème du financement pour le permis de conduire, pour le BAFA. C'est vraiment, je pense, le frein le plus important, c'est vraiment le financier.
Le financier. Et depuis ce matin, j'ai accueilli beaucoup de personnes. On parle aussi de l'orientation.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est des problématiques que tu rencontres, toi, sur ton centre ?
Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on a la visite des parents ou du jeune tout seul. Tu peux avoir le père ou la mère qui vient pour son enfant. Et donc, il aimerait avoir des informations parce que son fils ou sa fille a arrêté l'école. Il cherche une solution à son avenir. Et puis, donc, le chef de famille va venir vers nous pour trouver des solutions. Ou sinon, tu peux avoir le jeune qui va venir de son propre chef pour chercher, pour trouver une solution d'orientation. Et puis, de toute façon, nous, on a pas mal d'outils. On a les classeurs CIDJ qui nous permet d'aider, d'informer et d'orienter au mieux le jeune ou la jeune. et de répondre à ses besoins.
Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ?
Depuis 2018.
Depuis 2018, est-ce que de 2018, post-Covid, du coup avant le Covid et après le Covid, est-ce que tu as vu un changement chez les jeunes ou dans leur demande ?
Le changement qu'on a eu, c'est en termes de fréquentation. Après le Covid, on a senti une réelle baisse de la fréquentation. Et parce que aussi les jeunes se sont aussi débrouillés autrement pendant le Covid pour avoir un ordinateur. Et c'est vrai que maintenant le jeune peut travailler de chez lui. Et donc il venait de moins en moins dans nos structures. On a eu ça en fin 2020 parce que nous on a quand même ouvert la structure à partir de fin 2020 jusqu'à 2021, et là c'est revenu depuis 2022, c'est revenu, la fréquentation revient, les jeunes nous sollicitent de plus en plus, donc voilà.
Pour finir, qu'est-ce qui n'est pas fait ou qui est fait mais qui n'est pas assez à approfondir qu'on devrait faire pour la jeunesse? C'est la question la plus compliquée,
ouais, plus compliqué.
Hein. Depuis ce matin j'ai les mêmes réponses. Tu parlais notamment au niveau le fait que les jeunes viennent moins depuis le Covid. Ouais. Comment on fait pour attirer ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on met en place pour les attirer, pour faire en sorte qu'ils aient un engouement pour la structure?
On essaye de faire plus de communication de nos structures. On essaye de développer plus d'actions en extérieur, aller vers donc, le jeune, dans les maisons de quartier, les collèges, les lycées.
Comme disait Laurent Haute ce matin,
c'est ça. Aller
dans la rue.
Ou dans la rue, bien évidemment. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on développe de plus en plus, des actions en dehors les murs.
Ok.
Voilà.
Du coup, tu seras là ce soir? Enfin, tu es là jusqu'à demain
Oui, je suis là jusqu'à demain.
Bah, du coup, on espère te voir danser. Ouais, je voulais juste caler ça. J'espère qu'on te verra danser.
Bah, écoute, je vais essayer de danser. Je vais essayer de faire
des 19h. Le pari, il est pris, en tout cas. Merci beaucoup, Younes.
Pas de souci. Merci à toi.
On se dit à tout à l'heure.
Allez, merci encore.
Toujours sur Mon Paris FM, toujours dans le cadre des rencontres professionnelles du réseau Information Jeunesse d'Île-de-France. On est avec Mathilde. Comment ça va, Mathilde?
Bah bien.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors, comment? Parce que je peux me présenter de plein de manières différentes. Mais.
Bah, la plus basique, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et la raison de votre présence ici aujourd'hui.
De manière très étonnante, je suis informatrice jeunesse.
Wow.
T'as vu?
C'est la première.
T'as vu? Et du coup, moi, je suis dans une structure dans le 12e arrondissement. Je suis à Porte de Vincennes, dans le centre Paris-Anime Maurice Ravel.
C'est quoi le rôle d'un informateur jeunesse?
Et on fait beaucoup de choses. Donc, c'est d'apporter de l'information aux jeunes dans l'idée qu'ils deviennent autonomes et qu'ils arrivent à trouver les informations par eux-mêmes. Donc, on fait beaucoup avec eux et pas à la place. On n'est pas juste des magiciens qui disent hey, on a trouvé la bonne info. Mais du coup, c'est adapté à ce qu'eux recherchent et pouvoir leur donner des tips.
Et c'est quoi un jeune?
Un jeune, c'est quelqu'un. je me considère encore un peu jeune. C'est dur de. Je sais pas. Il n'y a pas de vraie définition, justement, parce qu'on se rend compte que même en étant adulte, on reste jeune. En vrai, c'est surtout certains dispositifs qui sont parfois limités à un certain âge. Et du coup, on se dit qu'être jeune au-delà de, on va dire, 30 ans, on n'est plus jeune. Mais juste parce que c'est des dispositifs jeunes. Et en fait, nous, on a l'avantage qu'on est des travailleurs de jeunesse. Donc parfois, on peut bénéficier de certains dispositif parce que on travaille avec des jeunes.
Alors que vous n'êtes plus jeune selon la tranche d'âge, en tout cas.
Voilà.
Et c'est le public type du centre dans lequel vous travaillez, c'est lequel?
Moi, il y a un peu de tout parce que comme on est relié à un centre Paris-Anime, il y a tout venant qui s'inscrit aux activités courantes. Et donc, c'est beaucoup du collège lycéen. Et après, parfois étudiantes et personnes non scolarisées aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on travaille vraiment avec tout type de public.
Et c'est quoi la problématique qui revient le plus souvent? Sachant que vous travaillez sur Paris en plus.
Ouais. Justement, Paris, on se dit que c'est facile, il y a tout. Et ils n'auraient pas besoin de nous, tout est facile d'accès. Et au final, on se rend compte que juste se déplacer, même au sein d'un arrondissement, c'est compliqué. Moi, je suis à Porte de Vincennes, donc c'est un peu une no-go zone. Donc parfois, j'ai une collègue là du 12e que tu as dû interviewer tout à l'heure. juste les faire décaler d'un arrondissement, ou même au sein d'un arrondissement, c'est pas toujours évident. Ça m'en dit, oula, non, c'est mort, enfin, on va pas là-bas. Et parfois, juste des choses en bas de chez eux, parce que justement, il y a tellement de choix, tellement de possibilités, qu'au final, bah, on n'y pense pas, en fait, et on reste un peu dans ses habitudes, et on... Et voilà, et c'est bien aussi. Mais du coup, parfois, on sait juste. Et je pense que c'est encore aussi flou de savoir ce que l'IJ et l'informateur jeunesse fait en général, parce qu'on couvre tellement de sujets, certes de manière un peu généraliste, mais on peut apporter plein d'infos. Donc.
Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier ?
Moi, ça fait 1 an et demi. Après, j'étais animatrice jeunesse aussi 1 an avant. Donc voilà.
Et pourquoi informatrice jeunesse ?
Bah du coup quand j'étais animatrice, il y avait déjà un et une informatrice jeunesse au fil de l'année où j'étais là-bas. Et cet aspect-là un peu plus individuel, peut-être d'accompagnement, m'intéressait beaucoup. J'aime aussi faire les actions collectives, mais je trouvais que c'était pas la même chose que l'animation. L'animation c'est chouette, on fait des choses un peu de loisirs qui attirent. Bon parfois pour information jeunesse, on est obligé de faire aussi un peu des activités pour attirer, parce que c'est pas toujours le premier réflexe d'un jeune d'aller à un point formation jeunesse quand on sait pas encore vraiment ce qu'il fait. Donc souvent ça passe par les activités jeunesse. Mais ouais, c'est ce lien-là qu'on crée. Bon, certes, on n'est pas toujours censé être amené à avoir du suivi, mais au final, comme c'est les jeunes du quartier qu'on commence à connaître, que parce qu'on a aidé un tel, bah, il en parle à ses copains. Et en fait, il y a ce bouche à oreille, ce lien de quartier qui est vraiment chouette à entretenir, que j'aime beaucoup. Quoi.
C'est quoi les qualités d'un bon informateur jeunesse ?
C'est être à l'écoute et je pense que c'est savoir répondre aux besoins sans vouloir faire à la place en fait. Parce que moi je sais que j'ai découvert plein de choses trop chouettes, trop des dispositifs, mais peut-être qui moi me plaisaient trop bien, mais qui correspondent pas du tout aux besoins du jeune. Et c'est savoir aussi se mettre en retrait quand il faut. Donc c'est s'adapter en fait au...
Pour finir, qu'est-ce qui n'est pas mis en place et qui devrait peut-être être mis en place, ou qu'est-ce qui est déjà mis en place mais qui mérite un approfondissement
Je pense la place qu'on laisse aux jeunes, parce qu'on est dans des structures, bon, même si nous on est géré par des associations sur Paris, donc en discutant avec des collègues ici de toute l'Île-de-France, où c'est très parfois municipal et où des fois bah, y a des injonctions encore plus restrictives, on en a certes, on va pas se cacher, on reste une institution comme on en parlait ce matin, on a beau dire que non, on n'est pas une institution, viens, c'est cool, il y a des canapés chez nous. Bah, en fait, ça reste un bâtiment où il faut rentrer quand même chez nous. Moi, c'est une problématique parce que nous, on a vu sur rue, mais on n'est pas encore bien identifié. Donc, c'est sûr que c'est. Je pense que l'espace, il est vraiment pensé avec les jeunes. Et sur d'autres collègues, il y en a où ils ont été mis en lien avec les architectes, avec les constructeurs du bâtiment, où vraiment ils ont eu la place dans le chantier. C'était pas juste, bah, venez. C'est fait pour vous, mais au final, il y en a d'autres qui disaient bah, nous, nos locaux, ils sont glauques, c'est des vieilles écoles primaires des années 90. Enfin, on n'a pas envie de les faire venir. Donc, c'est, je pense, au pouvoir leur donner vraiment la parole et au-delà de la parole, là, des accès au budget ou enfin, de dire OK, votre espace, vous voulez qu'il soit comment et que. Ouais, leur laisser vraiment la place et à la fois nous pouvoir répondre à leurs questions, de se dire on n'est pas non plus un service de jeunesse et en même temps leur faire montrer à quel point on peut être des alliés, mais faire ensemble quoi. J'ai l'impression qu'on se détache un peu de nous disant c'est nous le professionnel, on a toutes les clés, on a toutes les réponses, parce que j'ai l'impression qu'à force aussi on se satisfait de ça en disant il y aura toujours quelqu'un. On en parlait ce matin dans les ateliers en disant en 2030 ça se trouve il n'y aura plus d'accueil réel et on sera toujours utile, je pense, parce que c'est que dans 7 ans
je pense qu'il
n'y aura pas des robots magiques comme on disait dans les années 2000, on sera sur des voitures volantes etc. Mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'outils numériques, d'outils technologiques. C'est la génération aussi qui fait ça, il faut savoir s'adapter, mais c'est comment aussi faire en sorte que le jeune il peut aussi trouver les informations, parce que moi je vois, je travaille du mardi au samedi, le lundi ils sont perdus, il n'y a personne qui leur répond etc. Et je pense c'est être en capacité aussi de trouver les informations quand les structures sont fermées, quand on prend des congés, quand et donc de les responsabiliser davantage, je pense que c'est
ce serait important.
Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions.
Avec plaisir.
Et on espère te voir sur le dance floor comme pour Younes qui est passé juste avant.
Moi le karaoké, je suis au taquet.
Ah bon, on a hâte de voir ça alors. Merci beaucoup Mathilde.
Merci.
Toujours sur Mon Paris FM, toujours dans le cadre des rencontres professionnelles du réseau Information Jeunesse d'Île-de-France. On est avec Inès, Yousra et Amélie. Et je dis pas de bêtises, c'est ça?
C'est ça.
Bah, je vais vous demander de vous présenter déjà, mesdames. Qui commence?
Yousra? Oui, je peux commencer. Donc, c'est Yousra Gouram, je suis la chargée de communication digitale au CIDJ. Donc, je m'occupe de gérer les réseaux sociaux, notamment la communauté du CIDJ sur les réseaux sociaux. On est aussi pas mal présent sur les événements, justement, pour communiquer dessus et faire transmettre l'information aux jeunes.
Tu peux parler sans le casque, t'inquiète.
Bonjour, donc moi c'est Inès Pénaranda et je suis chargée de communication aussi au sein du CIDJ. Donc moi je m'occupe principalement de la communication événementielle et je gère un peu tous les canaux, aussi bien newsletter, site internet, enfin mise à jour de la page agenda du site internet, un peu de réseaux sociaux également et puis plein d'autres choses.
Amélie.
Et donc moi je suis Amélie Simon-Thézé, je suis responsable du service communication donc au CIDJ. Donc je travaille avec Inès et Yousra et aussi d'autres personnes au niveau du web, de la presse et aussi j'encadre une personne en service civique.
C'est quoi l'importance de la communication aujourd'hui?
C'est large.
En tout cas, dans le domaine dans lequel vous êtes, pour le CIDJ, pourquoi c'est important de communiquer
Alors en fait, on va communiquer de façon externe pour valoriser en fait toute l'activité hein, du CIDJ, toute l'activité en Île-de-France, mais aussi en national, puisqu'on a des missions aussi bien régionales que nationales. Et au niveau régional, puisqu'ici on est en Île-de-France, on va surtout travailler sur la communication de nos événements, de nos rencontres. Et donc là, comme aujourd'hui, sur les rencontres professionnelles Information Jeunesse, on va travailler avec le réseau, pour le réseau, en direction... Alors là, aujourd'hui, on est sur les informateurs jeunesse, mais la plupart du temps, on va être sur une cible, on va dire, plutôt jeune. Donc ça va être les jeunes, mais aussi tout l'entourage, les parents, l'entourage familial, les relais, les partenaires, avec lesquels on a beaucoup de liens, et aussi tout l'institutionnel, puisqu'on travaille en réseau avec de nombreux partenaires. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on a 226 structures partenaires dans le réseau Information Jeunesse. Et donc, on est vraiment en relais avec les gens du territoire.
Comment on communique efficacement, surtout quand il faut parler à des jeunes?
J'interviendrai autant que chargée de communication digitale justement pour parler des réseaux sociaux. Alors qu'on sait que nous, on a une première mission, c'est de transmettre l'information aux jeunes. Donc quel meilleur moyen de le faire aujourd'hui qu'à travers les réseaux sociaux. Et on voit que ça marche très bien, que c'est la source numéro un, à part le site cidj.com, pour avoir toutes les informations que transmet CIDJ, que ce soit par rapport à l'emploi, à la formation ou à la santé, à toutes les thématiques du CIDJ. Donc oui, je dirais en premier le site internet cidj.com et ensuite les réseaux sociaux.
Vous êtes confronté à un public jeune. Est-ce que parfois vous êtes confronté à leurs problématiques aussi, vous en tant que communicant, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous atteint pas du tout? Est-ce que les jeunes passent parfois par les réseaux sociaux et du coup vous êtes le premier relais en tout cas de ces jeunes-là? Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des demandes des jeunes via ces réseaux sociaux?
Oui. C'est sûr que rien qu'en revoyant les messages qu'on reçoit tous les jours, et c'est des dizaines de messages, généralement des questions qui doivent être posées directement à des conseillères. Justement, c'est pour ça qu'on fait de l'accueil public à QJ, à Quartier Jeune. Mais oui, on reçoit vraiment des questions qui intéressent directement les jeunes, sur toujours les mêmes thématiques que j'ai mentionné tout à l'heure. On essaye d'y répondre au mieux possible sur les réseaux sociaux, soit directement par message direct ou en repostant l'information à travers nos posts. Comme ça, l'information est beaucoup plus généralisée. Sinon, là, je dirais que les premières personnes à qui on pourrait s'adresser pour répondre aux questions des jeunes, c'est numéro un, les conseillères présentes à Quartier Jeune.
Oui, en fait, on a des conseillers, des conseillères qui vont répondre aux jeunes ou sur place à Quartier Jeune, 4 Place du Louvre à Paris. Vous pouvez venir tous les jours, hein, c'est ouvert horaires du mardi au vendredi, donc de 13h à 18h, et le samedi de 13h à 17h. C'est gratuit, anonyme pour tous les jeunes. Donc c'est vrai que quand les personnes sur les réseaux sociaux, en fait, on voit qu'ils peuvent se déplacer à Paris, en Ile-de-France, ils peuvent faire cette démarche. Sinon, il y a aussi tout le chat. Donc en fait, on a une formule chat sur notre site cidj.com qui permet en fait de poser des questions. Et ce sont les conseillers, les conseillères du CIDJ qui peuvent y répondre. Okay. Donc c'est vrai que là, même si on habite à Marseille, on peut avoir en fait une information fiable, efficace de la part de conseillers et conseillères qui certes accueillent le public les après-midi, mais le matin ou dans certains autres créneaux peuvent répondre aussi sur le chat. Et on a aussi une ligne téléphonique le matin.
Okay. Et pour finir, c'est quoi les qualités d'un bon communicant? Comment on communique efficacement?
Moi, je dirais la créativité, l'adaptabilité, l'innovation.
L'innovation, j'allais dire. L'adaptabilité, oui, c'est très bien.
L'organisation, en tout cas pour ma part.
C'est sûr.
Et je dirais aussi, pour compléter, se mettre à la place du jeune. Quand on communique vraiment, s'imaginer quelles sont les attentes du jeune pour communiquer de la meilleure façon, pour que ça le touche.
C'est
ça l'intéresse.
C'est parfait. Merci, mesdames, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Et merci à vous.
Merci.
Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.